je pense que c'est 11h. Je vais couper mon téléphone et puis on est parti.
Si, si, non, je crois qu'il est. Il est 11h, bon. Là, je pense qu'on peut y aller.
Sinon, on peut s'en aller, hein.
11h04.
On avait plus de monde de derrière. Allez, ça va faire venir.
Bonjour à tous. On va démarrer la conférence sur Ardios en espérant que ça va faire venir un petit peu de monde le fait de prendre la parole. Mésolia Habitat est un bailleur social qui est présent essentiellement sur la communauté urbaine de Bordeaux et autour du bassin d'Arcachon. Et on a souhaité profiter de l'exposition d'Agora pour intervenir sur un dossier qui est atypique pour nous et qui est le dossier des Ardios à Mérignac. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, alors on a déjà fait deux interventions les deux derniers jours, un sur la démarche un petit peu atypique d'urbanisme concerté qu'on a mené au niveau d'atelier, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, on pourra y revenir après au moment des questions si vous le souhaitez. Et on est intervenu aussi sur le côté approche à la carte vis-à-vis des habitants existants sur site. On en reparlera aussi un petit peu. Aujourd'hui, on va faire quand même un zoom sur l'environnement au cœur du projet. Alors, je vous présente Pierre Lascabette, qui est l'urbaniste coordonnateur de l'opération, et Antoine Vallée, qui est une des cinq équipes d'architectes qui a travaillé sur ce projet-là. Et on déclinera du coup le volet environnemental, à la fois partant de l'aménagement jusqu'au bâtiment et même à l'intérieur des bâtiments. Antoine Vallée, sur la fin, nous détaillera tout ça. Alors, Ardios, d'abord, un plan de situation. Alors, Ardios se situe à l'intersection de l'avenue de l'Isère et de la rue André-Houlet. Alors, l'avenue de l'Isère, c'est l'une des principales entrées de ville au niveau de Mérignac. On part depuis la rocade pour aller vers le centre-ville. On est à peu près entre les deux. Et la rue André-Houlet, c'est aujourd'hui un axe qui participe à la liaison nord-sud au niveau de Mérignac. La particularité de ce quartier, c'est qu'on se situe dans un secteur où on a quand même pas mal de commerces et d'équipements à proximité. On va le voir, une maison paroissiale, une école et donc des commerces. Alors, le quartier lui-même, voilà, tel qu'il était, j'avais dire hier encore, 200 logements existants, des années de 1958 exactement, qui ont été construits en 1958. Donc, du bâtiment R+1 collectif, qui présentait un certain nombre de problèmes. Alors, on a parlé de défaillance. Tout d'abord, c'est un bâti qui était créé donc dans les années 58. Très mauvaise isolation thermique et phonique. Pour la petite histoire, ce qui est un petit peu atypique, c'est que c'était des logements qui étaient livrés sans chauffage. Deuxième défaillance, donc on est bien évidemment aujourd'hui sur un bâti qui présentait des installations hors normes. Et puis des logements qui ne répondaient pas véritablement aux besoins d'aujourd'hui. On se retrouve avec des logements avec des très petites surfaces habitables, qui étaient bien évidemment inadaptées pour tout ce qui touche aux questions de personnes à mobilité réduite. Et enfin, ce sont des logements qui ont été révélés difficilement évolutifs. Pardon. J'ai envie de dire, on était sur un site où on aurait pu développer des petits jardins privatifs à rez-de-chaussée et des terrasses à l'étage, ce qui n'avait jamais été fait sur ce bâti-là. Et puis, deux autres points qui posaient souci aujourd'hui, c'était quand on a fait une étude de réhabilitation, restructuration de ce projet-là, financièrement, c'était quasi aussi coûteux qu'une opération de démolition-reconstruction sans jamais atteindre finalement le niveau de qualité du neuf. Donc on a opté pour la deuxième phase, démolition-reconstruction, mais dans une démarche bien particulière dont on va vous reparler. Et le dernier élément majeur aussi de ce projet-là, c'est qu'on se situe, alors on va revenir un petit peu en arrière, en haut à droite, à l'arrière du parc de la mairie, là où va arriver la future ligne de tramway, le parc Utrio, avec l'arrêt Utrio-Mairie, pardon. Et on se situe donc directement aux abords des transports publics tramway. Et la réflexion qui a été menée, ça a été de dire sur un site comme celui-là, on peut peut-être travailler sur une densification aux abords du tramway. Alors, le projet lui-même a fait l'objet d'une étude d'urbanisme qui a été validée par la ville de Mérignac et par Mésolia. Qui a donné ce plan masse. Alors, avant de venir sur le plan masse plus en détail et sur le caractère environnemental du projet, ce que je vous propose, c'est que Pierre Lascabette, qui a été l'urbaniste coordonnateur de cette opération à nos côtés, prenne la main pour un peu expliquer le contexte mérignacais et comment s'insère ce projet dans ce contexte-là. Et après, on rentrera vraiment en détail sur l'aménagement lui-même. Et enfin, avec Antoine Vallée, on verra la partie bâtie.
Merci, bonjour. Alors, s'agissant des enjeux de développement durable et d'aménagement durable qui ont été identifiés sur ce site, ce qui était important, c'était de repositionner ce projet à une échelle plus territoriale de la commune de Mérignac. Là, vous avez une image générale de Mérignac. Vous voyez le quartier des Ardillos. Le petit tracé, enfin l'espèce de ruban rouge que vous voyez apparaître, c'est le tracé du tramway et on va dire l'aire d'influence du tramway qui se situe à peu près entre 300 et 500 mètres par rapport à l'axe du tramway. Et on voit bien que le quartier des Ardillos se situe donc dans ce faisceau lié au tramway. Et donc l'objectif de la ville, c'est de dire, bien, aujourd'hui, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Mérignac, c'est une commune qui fonctionne sur une logique de quartier multipolaire. Et il y a besoin aujourd'hui de renforcer une image de centralité et donc de dire quelque part on va s'appuyer sur cet axe du tramway, sur ce tracé, sur tout ce que ça peut amener en termes de pratiques du quotidien pour venir conforter la ville et fabriquer un centre-ville qui est le long d'une arête centrale qu'est ce tramway. Et donc le quartier des Ardillos est en plein dans ce faisceau et dans cette logique de renforcement du centre. Et donc l'idée, en effet, c'est de dire qu'en accompagnant les opérations, eh bien, on est sur des logiques de densification et de renforcement d'apports de population pour participer au fonctionnement de ce centre-ville et de donner aux habitants l'accès à un ensemble de services, sachant que dans ce périmètre, vous avez beaucoup d'équipements qui sont aujourd'hui présents sur Mérignac. Il y a une autre logique liée au projet de territoire de Mérignac et à ses objectifs. C'est de dire que Mérignac joue beaucoup l'image d'une ville verte. C'est vrai qu'on a des endroits qui sont particulièrement de qualité. Il y a des grands parcs. Il y a d'autres secteurs qui sont en mutation, sur lesquels il y a des efforts à faire. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'opérations historiques sur Mérignac avait non seulement proposé du logement, mais en même temps livré un espace paysager, un parc, un véritable parc. Il y a deux exemples notamment très marquants sur Mérignac, c'est le parc Féo, où on a un grand lotissement qui s'est organisé autour d'un espace vert central relativement généreux. Et une autre opération aussi qui est intéressante, c'est la résidence Caperon, qui n'est pas très loin d'ailleurs des Ardillos, qui sont deux ensembles de logements collectifs des années 70 et qui sont organisés autour d'un grand espace paysager central. Et donc l'idée, c'est de dire en quoi chaque opération d'urbanisme, chaque opération d'aménagement peut être au service du renforcement de cette trame paysagère. En gros, c'est en quoi le fait d'urbaniser permet aussi de fabriquer du paysage. Je vais passer rapidement sur les orientations qui avaient été formulées. Donc, l'idée, c'était de dire ce quartier doit offrir des espaces ouverts, des espaces paysagers. Ces espaces paysagers ne sont pas uniquement, et ça c'est un élément qui est extrêmement important et qui sera, enfin, sur lequel il y a un gros effort qui a été fait, c'est qu'on est sur un espace donc, aménagé par Mésolia, des espaces qui auront un statut, on va dire privatif, mais ouvert. C'est un quartier qu'on pourra traverser et ouvert à la population à la fois du quartier alentour, mais aussi des habitants de Mérignac. Un habitat recentré vers l'accueil des familles et le logement social. Aujourd'hui, sur Mérignac, il y a un enjeu à accueillir des familles avec enfants pour continuer à faire vivre les équipements, les écoles, etc. Donc un enjeu à attirer des familles. Et puis une ville dense continue à aérer qui fabrique du paysage. Donc c'est bien cette idée de dire à la fois on vient apporter une densité, on vient renforcer ce fonctionnement de centre-ville, on vient ramener des habitants proches des services, mais on donne la possibilité aussi de créer des espaces paysagers de qualité et assez généreux. La démarche, je continue Stéphane, c'est la démarche, on a, donc c'est une opération de 500 logements sur un terrain donc à peu près de 5 hectares et sur lequel Mesolia, donc aménageur, a fait appel à 5 équipes d'architectes pour réaliser cet ensemble de logements. Dans cette logique, donc, il y a eu tout un ensemble d'ateliers qui ont été faits et on a vraiment travaillé sur une logique de projet négocié, c'est-à-dire qu'on avait finalement des règles de PLU relativement souples qui permettaient de pouvoir travailler à la fois des gabarits, des implantations de façon assez libre. Et donc, du coup, on a pu travailler sur une composition d'ensemble avec les différents architectes, en essayant aussi de préserver les végétaux qui étaient en place et qui étaient existants. Donc, on n'était pas sur un urbanisme, en tout cas un projet qui s'inscrivait dans une logique réglementaire, mais véritablement de négociation, de discussion, de concertation entre ces différentes, les différentes équipes d'architectes, mais aussi la ville et aussi Mesolia, plus les différents acteurs qui intervenaient là-dessus, que ce soit des promoteurs privés ou autres. Bon, l'objectif, évidemment, c'est d'offrir un cadre de vie de qualité et finalement de se dire en quoi cette opération aussi, dans son processus d'élaboration, de conception et opérationnelle, peut constituer un exemple, être exemplaire en termes de démarche et en termes de résultats. Rapidement, donc, la situation du quartier sur un secteur plus zoomé. Vous voyez tout ce qui est coloré, rouge, orange. Donc vous avez le faisceau toujours du tramway, hein, l'axe avec son aire d'influence. On voit bien que le quartier est à proximité d'un ensemble de services, d'équipements. Donc l'idée, en effet, c'est de favoriser cette idée de proximité et de qualité du cadre de vie. Là, vous avez les abords du quartier, avec pas mal des organisations, que ce soit des quartiers, enfin des opérations qui sont autour ou des structures qui sont assez diversifiées. Donc, il y avait un enjeu aussi à venir se raccrocher et à recréer des liens et des continuités avec cet environnement. Nous avions aussi à proximité un petit centre commercial. Donc l'idée du quartier, c'est de venir conforter un peu une sorte de polarité autour de ce centre commercial. Nous sommes le long de l'avenue de l'Isère. Hein. Voilà.
Je vais poursuivre du coup sur les principes d'aménagement retenus. Merci Pierre. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur l'entourage. Les cinq grands thèmes fondateurs du projet, on va y venir, c'est tout d'abord la base de ce projet-là, le plan masse que je vous ai projeté tout à l'heure et qu'on va revoir, ben en fait, il n'a pas été établi comme ça par hasard. On est parti du site existant, on a recensé les arbres remarquables du site et en fait, l'implantation des nouveaux bâtiments se situe dans le respect de ces arbres-là. Ça, c'est la première particularité, donc un plan guide dicté par ces arbres remarquables et des aménagements de logements autour de trois parcs. Vous voyez, il y a trois parcs qui apparaissent au niveau du projet. Alors, de façon plus technique, voilà un petit peu à quoi ressemblera Ardios demain. Vous avez, je crois que c'est en orange, les arbres remarquables, en rond orange. En vert, ce sont les nouveaux arbres qui seront plantés. Mais l'idée, ça a été de dire, à un moment donné, on ne vient pas faire tout casser et tout reconstruire sans tenir compte de l'existant. On recense les arbres existants et à partir de là, il y a un plan de masse qui a été établi avec la création de ces trois parcs. L'autre démarche forte de ce projet, c'est donc la densité bâtie et la promotion des déplacements doux. Vous avez une diagonale qui part du sud-ouest pour aller au nord-est, qui est un futur cheminement public vélo-piéton qui permettra de relier donc en haut à droite le futur arrêt de tramway et qui permettra d'assurer la connexion avec les quartiers voisins qui sont situés à gauche. L'autre particularité du projet, on a deux axes perpendiculaires qui sont des venelles de desserte de ces bâtiments, de ces logements. La particularité, c'est qu'on est aujourd'hui sur des dessertes de bâtiments et de logements par voie douce, c'est-à-dire piéton-vélo, et bien sûr tout ce qui est concessionnaire ou ordure ménagère doit pouvoir y passer, mais tout ce qui est stationnement véhicule a été placé en souterrain et regroupé au niveau de tous les bâtiments. Donc il y a des parkings généraux qui glissent sous les bâtiments. Afin de dégager un espace extérieur important, renforcer la biodiversité du site par la création des trois parcs. Et ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on est aujourd'hui, on était aujourd'hui sur 200 logements avec un certain nombre d'espaces verts autour. Et bien demain, on sera sur un peu plus de 500 logements et avec un espace, une surface imperméabilisée au sol moins importante, tout simplement parce qu'on fait glisser la voiture en souterrain et on développe les trois parcs. Les trois parcs, comme vous évoquez, donc, c'est le cabinet Debar du Plantier qui a travaillé avec nous sur ce sujet-là. Et en fait, il a défini et décliné trois thématiques de parcs pour amener à la fois une diversité dans le cheminement et aussi en fonction du site. Donc vous avez plutôt le parc méditerranéen sec en bas à gauche, le parc intermédiaire, on va dire méditerranéen au centre, et puis le parc plus humide en haut à droite, qui est le parc anglais. Cette question-là a été évoquée aussi compte tenu de la ligne de crête du site et la partie où on est un peu plus en hauteur, bien évidemment, est plus sèche. La partie où on est un peu plus basse, forcément, vient côtoyer un peu plus d'eau, d'où le parc anglais. Bien évidemment, qui dit traitement paysager, aménagement, ce que vous voyez en bleu, ce sont des bassins d'orage, mais alors pas des bassins de rétention où on plonge à 5 mètres de profondeur et on a une clôture autour, pas du tout. On a des parcs paysagers qui sont représentés et l'idée, c'est justement qu'il y a modelé de terrain avec des jeux de buts et de nous pour récupérer les eaux pluviales, pour les gérer. Alors, on récupère à la fois les eaux pluviales des parcs, mais également des toitures, des bâtis au niveau des bassins au centre des parcs. Alors vous avez un petit aperçu, alors la coupe ne donne pas trop bien, mais en partie haute, vous avez ce que sera demain les bâtiments avec les stationnements souterrains, ce que ça donne sur la liaison avec les Venelles, et entre les deux, on a souvent donc des noues de récupération des eaux pluviales qui permettent la temporisation de l'eau et qui peuvent amener aussi un peu de fraîcheur l'été, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, sur la partie, on le voit un petit peu en bas, au niveau du parc, alors on a deux bâtiments, on a le parc au milieu, et puis on a, ce que je vous évoquais tout à l'heure, un jeu de modelé de terrain pour que, justement, le centre du parc puisse jouer le rôle de bassin d'orage lors de fortes pluies. L'autre élément majeur de ce projet-là, quand on parle de développement durable, bien évidemment, c'est le développement de la mixité sociale. On était aujourd'hui sur 200 logements locatifs sociaux. On sera demain sur un peu plus de 320 logements locatifs sociaux, c'est ce qui apparaît en bleu. Et on a souhaité retravailler ce projet-là, bien évidemment, en amenant de la mixité. Donc, on a un peu plus de 40 logements en orange qui seront en accession sociale. Et on a travaillé avec 4 partenaires promoteurs, Pichet, Nexity, Eiffage et Acprime. Mais voilà, j'avais oublié le quatrième, qui apparaissent en rouge, qui sont chargés de faire de l'accession privée. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu une volonté aussi de mélanger locatif social, accession sociale et accession privée. On n'a pas tout le rouge d'un côté, tout le bleu de l'autre, justement pour qu'il y ait véritablement un rôle de mixité affirmé sur tout le projet. L'autre point fort, on en a parlé hier pour ceux qui étaient présents peut-être hier sur le volet humain du projet des Ardillos. Ce projet-là, on est parti sur une démolition de 200 logements, sauf que, bien évidemment, on s'est attaché, avant de lancer la démolition, à prendre contact avec les 200 habitants qui étaient sur site. Il y a eu une rencontre individuelle des rencontres individuelles formalisées, un local qui a été créé sur site, des échanges multiples avec eux et des propositions de relogement, à la fois sur le patrimoine de Mésolia, mais on leur a aussi également proposé, pour ceux qui le souhaitent, de venir intégrer les premiers bâtiments qui seront livrés sur le projet. Donc, sur les 200 logements, on a à peu près une cinquantaine de familles qui aujourd'hui soit habitaient déjà dans la zone rouge, soit étaient relogées dans la zone rouge et attendent que la première phase se fasse en zone bleue pour intégrer les premiers bâtiments. Je redonne la main à Pierre Ascabet pour qu'il vous parle maintenant un peu plus de tout ce qui est comment le projet lui-même a tissé des liens avec l'environnement direct à proximité.
Donc, là, vous avez le projet qui avait été élaboré, le projet qui avait été élaboré à l'origine par Laurent Fagard, architecte urbaniste, qui avait été donc validé à la fois par la ville de Mérignac et Mésolia, donc qui faisait déjà, qui affichait une programmation de 507 logements sur un terrain de 4,7 hectares. Donc vous voyez qu'on est à peu près, un peu plus, dans une densité de 100 logements à l'hectare. Tout en ayant, vous le voyez, des espaces paysagers généreux. Donc en effet, cette opération ne livre pas simplement des logements, elle livre aussi un parc paysager qui sera ouvert donc à l'ensemble des habitants riverains. Alors, comme je disais, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs sur ce projet. Donc on a fonctionné pendant une année, on a fait une présentation il y a 2 jours, mais je vais peut-être y revenir rapidement dessus. On a fonctionné pendant une année sous forme d'atelier tout au long du processus de conception de ces bâtiments. Et donc mon rôle était d'assurer la cohérence entre les différents maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, à l'interface aussi avec Mésolia aménageur. Et on voit bien qu'il y avait des gros enjeux, et notamment quand on parlait tout à l'heure du stationnement, arriver à intégrer la totalité du stationnement sous les bâtiments, sachant qu'on est sur des stationnements mutualisés, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi limiter le nombre d'accès, le nombre de rampes, pour éviter qu'on ait une succession de béances depuis l'espace public. Donc tout le monde a joué le jeu et ont accepté donc de travailler sur une notion de mutualiser les accès et avoir des parkings communs. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui ont fait partie de ce processus de travail pendant une année sous forme d'atelier. Donc quand on a récupéré le travail qui avait été fait par Laurent Fagard, on a retravaillé donc avec Mésolia. On a proposé de faire un peu une relecture de ce projet, notamment pour améliorer les continuités, les liens avec les quartiers périphériques. Vous avez à côté, par exemple, la cité de l'Isère, qui offre aussi des parcs paysagers assez généreux. Donc on a essayé de voir dans quelle mesure on ne pouvait pas renforcer les continuités, le sentiment finalement que ce parc n'était pas limité simplement au quartier lui-même, à l'opération elle-même, mais aussi pouvait s'étendre, se ramifier à l'échelle du territoire et du quartier de façon plus générale. Alors, dans les éléments aussi, on va dire qu'on a retravaillé, il s'agissait de donner un caractère piétonnier, c'est-à-dire que ce quartier n'a pas une seule, on ne circule pas en voiture à l'intérieur du quartier, toutes les voitures accèdent par la périphérie, donc on est vraiment sur un espace piétonnier, avec des principes donc de traversée, de perméabilité transversale, c'est-à-dire de pouvoir, pour les habitants qui habitent plus au nord, de pouvoir rejoindre le centre-ville et l'avenue de l'Isère, et aussi cette fameuse diagonale qui permet à la fois de relier depuis l'avenue de l'Isère de pouvoir aller jusqu'à la future station de tramway qui passe proche de la mairie, et puis de donner ce sentiment aussi d'unité, c'est-à-dire qu'à la fois on a vu qu'il y avait une succession d'espaces qui étaient structurés par le bâti, mais le fait d'avoir une liaison continue entre ces espaces donne un sentiment finalement d'un seul parc et d'un seul espace paysager. Donc voilà un peu de façon schématique le plan d'aménagement, le plan d'ensemble, et on voit bien cette diagonale qui relie l'avenue de l'Isère au tramway, hein, d'ailleurs c'est plus le futur d'ailleurs puisqu'il il a été réalisé, et qui articule les différents espaces de ce quartier et qui aussi permet de lire les différentes opérations qui se succèdent. Alors dans ce travail de coordination, on ne s'est pas tenu simplement à l'histoire, enfin aux questions de parking, il y a eu un travail qui a été fait notamment avec les architectes, qui partait véritablement aussi des usages. On a vu tout à l'heure, enfin, on vient de parler des usages, je dirais, liés au quartier. Il y a aussi les usages liés aux futurs habitants. Donc, on a travaillé sur des logiques, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas, en tant que coordination, puisqu'il y avait une volonté affirmée de toute façon d'apporter à travers cinq équipes d'architectes, dont des écritures architecturales différentes. J'ai considéré que chacun pouvait conserver sa liberté de conception. Simplement, on avait donné des principes à partir duquel on a discuté, des principes un peu communs à l'ensemble des équipes, de façon à retrouver un peu une sorte de cohérence et de logique d'ensemble. Ces principes, d'abord, ils étaient assez simples, c'est-à-dire que quand on regarde, on avait donc des parcs, mais on a aussi des sortes de voies piétonnes de Venelle. Les logements sont desservis d'un côté, donc côté Venelle, on accède. L'accès au logement se fait par tout un jeu de coursives, ce qui permet de rester finalement, l'habitant, celui qui monte dans ses étages, garde toujours une relation avec la rue, et ça participe aussi de l'animation de la rue piétonne. Pardon. Et côté parc, l'idée c'est que tous les logements puissent profiter de grandes terrasses, de prolongements extérieurs ouverts sur ce parc, et que finalement le parc et les logements avec leur extension finalement qu'il n'y ait pas une limite affirmée entre les bâtiments et le parc lui-même. Alors, d'autres éléments de principes généraux que l'on avait proposés, c'était de dire que pour garder à la fois une relation à l'espace public, aux espaces extérieurs qui soient de qualité, pour diversifier les typologies de logements, parce que quand on parle de diversifier des typologies de logements, on va en parler tout de suite, c'est ce qui participe aussi finalement de la diversité des quartiers de la ville. La banalité fabrique de la banalité. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur des choses plus diversifiées et de proposer des modes d'habiter différents. On était parti sur l'idée qu'au lieu que ce soit véritablement des immeubles collectifs qui du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage soient traités de façon identique, on ait une sorte de stratification. Je vais peut-être venir sur le schéma tout de suite. Donc l'idée c'était de dire les logements du rez-de-chaussée, parce que des fois habiter en rez-de-chaussée c'est toujours un peu... on a moins de lumière, donc l'idée c'était de traiter les logements du rez-de-chaussée en duplex comme si c'était des maisons et qui étaient directement en relation notamment avec le sol, avec le parc, c'est-à-dire que les logements du rez-de-chaussée s'ouvrent directement sur les espaces extérieurs, d'où cette typologie qui fait qu'on a des socles de bâtiments relativement haut et qui donne aussi une échelle urbaine au niveau du quartier. Pour les étages intermédiaires, c'est des logements qui fonctionnent avec des prolongements extérieurs. Eux, ils sont dans les arbres. Et puis, on trouvait une troisième, donc on avait une sorte de hiérarchie, une troisième typologie qui sont les maisons sur le toit qui profitent de larges terrasses et qui, elles, sont en relation avec le ciel. Et ça fabrique dans un même bâtiment trois manières d'habiter finalement ce quartier et du coup favorise justement cette diversité à la fois des constructions et aussi de l'image de la ville.
Non, c'est bon, le micro c'est bon, merci. Je reprends la main justement pour... Alors, on a évoqué jusqu'à présent un peu les grandes thématiques qui font le côté environnemental du projet d'aménagement. Le côté atypique du projet, c'est que c'est, comme le disait un peu Pierre tout à l'heure, c'est la démarche concertée forte au niveau des ateliers. Alors, on va en parler vite, rapidement, pour que vous y voyez un peu plus clair sur le sujet, et après, on fera le zoom sur les bâtiments eux-mêmes. Donc, la démarche, c'est ce que disait Pierre Lascabet tout à l'heure. Plutôt que Mesolia étant à la fois aménageur et constructeur de certains bâtiments, plutôt que de dire je retiens un architecte qui fera tous les bâtiments, dès le début, on s'est dit on va travailler avec 5 architectes qu'on va faire travailler en atelier. Et pour nous aider à structurer les échanges et les débats, on s'est adjoint les services donc d'une paysagiste, le cabinet de Barre du Plantier, et d'un bureau d'études VRD, le bureau d'études Ingérop, et d'un urbaniste coordonnateur à la personne de Pierre Lascabet. Donc pendant un an, on a travaillé. Donc alors, vous voyez la répartition des équipes de maîtrise d'œuvre, pardon. Alors, vous avez en bleu l'équipe Studio Bellecour, en violet clair, on va dire en mauve, Toury-Vallée, Antoine Vallée, donc en est le représentant, parlera tout à l'heure de ces bâtiments avec Nicolas Raymond. Et puis, vous avez en violet plus foncé l'équipe Andrieu-Laclaftine d'Aquin-Ferrière. En orange, l'équipe Opus 2 qui a été repris, le projet a été repris par Michel Moga. Et Tesser Touton, tout au bout à droite. Alors, comment ça s'est déroulé tout ça? On a travaillé donc avec 5 équipes d'architectes, mais aussi avec 6 maîtres d'ouvrage en atelier pendant un an. Donc, Mésolia Habitat, le toit girondin qui est le cousin de Mésolia Habitat, qui va s'occuper de faire l'accession sociale à la propriété. Et ensuite, tout ce qui est accession privée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, FH Immobilier, Groupe Pichet, Nexity, Acprime, qui ont travaillé avec nous en atelier. Et pour avoir un regard sur les questions de sécurité d'un point de vue plus technique, on s'était adjoint les services aussi de Socotec, Veritas et Decra. Alors, les maîtres d'ouvrage du projet, on a vu tout à l'heure. Voilà comment c'était réparti. Et je voulais revenir aussi sur les architectes, tout simplement pour dire qu'à un moment donné, dans la même logique que de la répartition en termes de mixité, on n'est pas sur des projets isolés les uns après les autres. Vous voyez que les couleurs s'entremêlent justement pour que les échanges en atelier se fassent et que les différents architectes qui travaillent prennent en compte les bâtiments qu'il y aura autour. Alors, les ateliers se sont déroulés sur un an. On a fait 5 ateliers, donc avec les différentes étapes. Ça se déroulait un peu sur le principe de, on va dire, pour reprendre l'expression d'une des équipes de mini-concours, où chaque fois, au fur et à mesure des étapes, il y avait des rendus qui étaient présentés aux autres équipes et il y avait de l'échange derrière. Alors, la petite particularité, comme le disait tout à l'heure Pierre Lascabette, on a défini des grands principes invariables qui nous semblaient importants de maintenir, des logements traversants, avec coursives, le principe d'aménagement autour des parcs, le principe d'habitat, comme l'a évoqué Pierre Lascabette, avec 30% de grands logements par bâtiment, 3 types d'habitat dans le même type de bâtiment. Et après, j'ai envie de dire, tout le reste était un peu ouvert à la discussion, à l'échange. Et à l'issue d'ateliers, chacun se mettait un petit peu à nu, présentait ses réflexions. Ce qui était positif, on le gardait pour l'atelier d'après. Et ce qui était moins perçu, moins positivement, on le faisait retravailler, on le maturait, parce qu'on a vu différentes équipes avancer, on va dire, à des vitesses différentes, à des vitesses variables. Certains, entre deux ateliers, avaient une forte progression, et puis l'atelier d'après, la progression se tassait un peu, et inversement. D'autres équipes qui patinaient un petit peu au démarrage se retrouvaient à mieux avancer derrière. Donc, et tout cet échange, ce travail de concertation autour des ateliers a permis justement à chaque équipe d'enrichir ses projets au fur et à mesure de l'année d'atelier. Alors vous avez là un petit aperçu des rendus d'atelier entre les premiers ateliers où on est sur des approches plus volumétriques, des premiers regards d'intention d'idée, jusqu'à partie droite, les bâtiments tels qu'ils ont été maturés à la fin des ateliers et sur lesquels on va aujourd'hui déposer les permis de construire. Alors vous avez ces deux panneaux-là. Ce que je vous propose, c'est que justement la deuxième ligne, l'agence Toury-Vallée d'Antoine Vallée va rentrer en détail justement sur le travail qu'il a fait lui au niveau des ateliers en termes de réflexion architecturale et environnementale. Et dans la même logique, on fait un petit clin d'œil parce qu'on a fait appel à un prestataire pour nous monter une maquette interactive en 3 dimensions. Alors pour ceux que ça intéresse, sur le petit stand Mésolia, on a un film de présentation et une maquette où vous pouvez vous déplacer dans les Ardillos. Ça nous a servi à la fois, bien évidemment, en termes de communication, y compris pour les habitants. Les habitants qui souhaitaient rester sur site, le fait de voir une maquette 3D, ça leur permettait de mieux visualiser comment serait le quartier demain. Et ça nous a aussi un peu servi au niveau des ateliers. Ça a permis aux équipes de voir directement les interactions des bâtiments les uns par rapport aux autres, comment pouvait fonctionner le quartier demain. Je vous propose de donner la main à Antoine Vallée qui va vraiment rentrer dans le détail donc des bâtiments que vous avez en bleu et en vert, à la fois sur le volet architectural, sur le volet environnemental. Je pense qu'il va le détailler. Ce qui est intéressant, comme vous voyez le nord, les bâtiments, comme on respecte les arbres du site, ne sont pas forcément toujours bien orientés. Et ils ont fait preuve d'astuce, de réflexion, justement, pour aller chercher le soleil, même s'ils n'avaient pas une belle orientation.
Merci. Bonjour. Oui, voilà. Alors, comme on a pu le voir, nous, quand on arrive sur la réflexion sur les bâtiments, on est sur un projet qui est initié de longue date, avec de certains nombres de règles du jeu qui avaient été fixées sur le plan d'urbanisme et puis sur les enjeux environnementaux. Donc, il y avait déjà un certain nombre de réponses sur la rétention d'eau, sur des chaufferies collectives ou des éléments comme ça. Et donc, nous, notre travail était vraiment d'essayer de tirer le meilleur parti pour les bâtiments qui nous étaient proposés. On a eu la chance de pouvoir travailler sur trois bâtiments, donc deux bâtiments qui sont représentés en bleu et un en vert. Alors pourquoi ces deux couleurs? À la fois parce qu'on était associé avec un autre architecte sur cette opération, Nicolas Raymond, donc on s'est répartis les bâtiments. Et puis aussi parce qu'effectivement il y avait des logiques différentes. On voit en orange représenter les espaces des Venelles, donc c'est l'espace public par lequel on va arriver vers les logements. Et donc systématiquement sur ces façades qui donnent sur les espaces en orange sur les Venelles, on devait avoir un système de coursives pour accéder au logement. Et à contrario, sur les autres façades, on était plutôt orienté vers le parc. Ce qui faisait que d'un bâtiment à l'autre, notre séjour et les terrasses n'étaient pas forcément avec la meilleure orientation possible. Donc on va regarder là les deux bâtiments bleus qui, eux, avaient cette chance d'être plutôt orientés avec les Venelles à l'est et puis les espaces de ville et séjour et les terrasses à l'ouest sur le parc. Et donc, ayant cette bonne orientation, nous, le parti pris a été de dire que pour avoir un bâtiment qui réponde le plus facilement possible aux enjeux environnementaux, c'était d'essayer d'avoir un bâtiment le plus compact possible, parce que ça, on sait que la compacité, ça permet de faire des économies de moyens, des économies de matière. On a beaucoup moins de surface déperditive, donc c'est beaucoup plus facile de contrôler la chaleur dans le logement. Et puis aussi, c'est ce qu'on voit en orange et en bleu sur le troisième schéma, c'était d'ouvrir plus ou moins les façades en fonction de leur orientation, c'est-à-dire que les façades à l'ouest vers le soleil avec des baies et des fenêtres plus importantes, et à l'est, là où il fait plus froid, un peu moins de surface vitrée sur les façades, et de travailler aussi sur le rôle de régulation que peuvent avoir les terrasses et ces débords qui permettent de couper le soleil en été quand il est en position zénitale et de laisser rentrer par contre la lumière et le soleil en hiver quand le soleil est plus bas. Néanmoins, voilà cette volonté d'avoir un bâtiment à la volumétrie la plus efficace possible. Il ne fallait pas que ça vienne appauvrir après la réflexion sur la spatialité du logement et de la cellule d'habitation. Donc c'est pareil, on a essayé de tirer le meilleur parti pris et de cette typologie de logement desservi par coursive. On voit sur le premier schéma la coursive représentée en vert et puis les deux noyaux de circulation. Donc avec deux noyaux de circulation, on va réussir à desservir 8 appartements par niveau, et l'ensemble de ces appartements seront traversants de façade à façade. Et après, on a eu un choix justement de développer les séjours sur toute cette longueur et d'avoir une partition jour-nuit entre des espaces de vie traversants et puis mis à côté, représentés en vert, les espaces de nuit avec deux chambres et des salles de bain. Et avoir la possibilité aussi d'avoir beaucoup de flexibilité dans la conception et puis pour avoir la répartition des typologies demandées du type 2 au type 5 en juxtaposant ces trames et en attribuant finalement les chambres d'un côté ou de l'autre des séjours, on arrive à développer sur le même principe du T2 au type 5. Donc on voit ici sur une cellule type ce principe de pièces de vie traversantes avec au milieu la cuisine qui organise d'un côté le coin salon et d'un côté le coin repas, et puis une deuxième bande avec les espaces de nuit, les chambres et les pièces d'eau. On avait un deuxième bâtiment avec une réflexion un peu différente. Le premier était développé pour Mesolia en tant que maîtrise d'ouvrage. Et le deuxième, on était donc sur de l'accession privée avec ACPRIM. Et là, une demande sur la possibilité de pouvoir privatiser les espaces de coursive. Et ce qui nous a amené à avoir une réflexion un peu différente. On le voit sur le troisième schéma, sur la partition jour-nuit, où au lieu d'avoir des séjours traversants, on a privilégié des séjours ouverts sur leur longueur, sur les terrasses et sur le parc. Et puis côté coursif, comme elles étaient privatisées, la possibilité d'implanter l'ensemble des chambres. Et au niveau de la cellule même, on a eu aussi une recherche sur la typologie, une notion d'espace amplifié, essayer d'agrandir la perception du logement par transparence. Et c'est ce qu'on voit là sur ce plan, avec un principe où les portes d'accès aux chambres ou aux salles de bain sont implantées le long des façades, et que une fois ouvert, chaque pièce se prolonge en transparente sur la suivante, et ce qui permet d'avoir sur toute la périphérie du logement un espace fluide. Alors, les premières intentions aussi au niveau de la volumétrie, comme on avait travaillé sur la compacité, on avait un bâtiment qui était assez strict, et le fait d'avoir un système de coursive et un système de terrasse, on voulait jouer avec ça pour que ça rentre un peu en dialogue avec le parc, et puis assouplir un peu l'image du bâtiment. Donc voilà, ça c'est au cours des premiers ateliers, voilà, c'est cette première intention de finalement donner l'écriture architecturale du bâtiment par les terrasses et les coursives. Et puis toujours dans cette recherche environnementale, on a approfondi un peu cette recherche. On voulait aussi que ce principe d'ondulation entre en écho avec l'organisation interne du logement. Donc, ce qui nous a amené à placer des balcons peu avancés au niveau des chambres, et des balcons beaucoup plus généraux sur les séjours. Et d'un niveau à l'autre, en intervertissant la position des séjours et des chambres, ça permet d'avoir ce jeu d'ondulation et de créer des terrasses qui vont être pour partie en double hauteur. Les terrasses des chambres en retrait vont permettre au soleil de rentrer plus généreusement dans le séjour, et également de gérer les questions de vis-à-vis. Alors voilà, ce que ça peut générer sur deux plans types, où on voit la partition des espaces jour-nuit et comment, en les intervertissant d'un niveau à l'autre, on arrive aussi à intervertir les balcons et créer ce jeu d'ondulation. Et puis sur le deuxième bâtiment qui était développé pour ACPRIM, les grands enjeux qu'on a vus tout à l'heure au niveau du plan d'urbanisme, avec l'implantation de maisons sur le toit et le même dispositif de traitement pour les terrasses. Donc voilà en perspective ce que ça peut donner. Et voilà, et cette idée qu'à un moment la terrasse s'avance vers le parc et permet d'aller chercher aussi un peu de soleil et un peu de ciel. La même vue en contre-plongée pour montrer un peu l'esthétique que ça peut donner, et comment on est venu adoucir finalement la volumétrie très stricte du projet, et là une vue un peu plus générale depuis la vue depuis le parc. Alors là, c'est un document intéressant qui montre la grande richesse du plan d'urbanisme, où effectivement on voit qu'il y avait un certain nombre de règles au niveau des coursives, au niveau de la stratification stratification du programme, mais en même temps il permettait une grande diversité de réponses. Et comme on a vu avec les systèmes d'orientation, on a tous été amenés à réfléchir de manière assez différente en fonction du bâtiment que l'on avait à traiter. Et on voit là deux réponses qui sont assez opposées dans leur dessin, et qui pourtant apportent beaucoup de richesse à cet espace public. Et donc on va maintenant voir le troisième bâtiment qui a été développé par Nicolas Raymond, et comprendre pourquoi voilà, on a abouti à une réponse différente. Donc lui, les séjours et les terrasses tournées vers le parc bénéficiaient d'une orientation qui était beaucoup moins favorable, plutôt nord-nord-est. Et donc tout son travail a été d'essayer de réorienter la trame de ces logements pour maximiser et optimiser les apports solaires et de lumière. Donc pour ce faire, il y a eu un jeu sur des rodents. Donc il a tourné complètement la trame structurelle et les façades, ce qui a généré une succession de rodents. Et ces rodents avaient en plus l'avantage de pouvoir gérer toutes les questions d'intimité. Donc d'un côté parc, de traiter les terrasses en creux, et côté coursive, de mettre à distance par des vides la coursive vis-à-vis de la chambre qui était orientée sur la coursive. C'est ce qu'on voit ici, donc le même plan et la même cellule en axonométrie, et on voit le système de répétition qui met à distance cette coursive avec le vide, et puis chaque terrasse qui est vraiment une alcôve dans la façade. La perception qu'on peut avoir depuis un séjour avec cette terrasse intimiste qui s'ouvre après sur le parc et sur un paysage plus vaste. Alors là aussi, il y a eu cette réflexion sur l'imbrication des logements avec des systèmes de duplex et de logements sur un seul niveau pour aboutir à la diversité de typologies qui était de demander, et avec une difficulté finalement sur ce projet, le fait d'avoir travaillé sur une trame complètement désaxée. Pour que ça puisse être réaliste, il fallait qu'on arrive à faire fonctionner cette infrastructure avec le parking. Et donc il y a eu tout un travail pour faire en sorte que, alors ça nécessiterait un pointeur pour pouvoir expliquer précisément, mais en fait voilà, chaque angle des rodents vient tomber sur les poteaux au niveau du parking, et finalement on a un dessin assez complexe dans les étages, et on a réussi à redessiner un parking tout à fait classique avec un coût maîtrisé. On voit là en volumétrie ce que ça peut donner, aussi ce jeu d'inversion au premier étage entre les espaces de nuit et les espaces de jour, afin d'imbriquer dans les duplex à rez-de-chaussée un type 2. C'est ce qu'on va voir un peu ici sur une coupe axonométrique. Donc le logement, la maison à rez-de-chaussée avec un espace traversant tel que ça avait été imaginé sur le plan d'urbanisme, et puis une chambre à l'étage, et l'ensemble qui vient s'organiser autour de cette terrasse en double hauteur, avec le séjour, la chambre des parents et la chambre de l'étage qui communiquent vraiment sur cette idée de maison sur le parc. Voilà ce que ça peut donner au niveau de la façade. On voit bien donc autour du parasol, voilà j'ai été un peu trop vite, les trois mêmes fenêtres qui appartiennent à un même logement, et puis au premier étage en retrait la loggia du type 2 qui vient s'imbriquer, et au dernier niveau à nouveau des duplex et cette idée de maison sur le toit. Donc voilà ce que ça peut donner en vue depuis l'avenue de l'Isère, depuis le parc. Et puis ici, la dernière image sur la Venelle, avec cette grille structurelle qui vient porter les coursives, et qui met aussi en valeur, qui redessine un peu le principe de cette volumétrie caractérisée par les rodents, donc cet effort de tourner le bâtiment vers le soleil.
Alors, pour finir brièvement, simplement dire que aujourd'hui, merci. On en est à une phase de dépôt de permis construire des deux premiers parcs, les parcs que vous avez complètement à droite et celui au centre, pour un démarrage travaux de ces bâtiments l'année prochaine. Et pour faire toucher du doigt que la réalisation de ce projet-là, au final, donc les locataires, la cinquantaine de familles qui sont dans les logements, qui vont intégrer les premiers bâtiments, devraient le faire en 2017. Et le petit clin d'œil, c'était pour dire qu'un projet comme ça, bien évidemment, entre la première réflexion qui avait été menée au tout démarrage avec l'étude d'urbanisme et, on va dire, la livraison des derniers bâtiments en phase 2, eh bien, on aura fait un petit bout de ville sur l'espace de 10 ans. Voilà. On est à votre disposition si vous souhaitez poser quelques questions. Et on vous remercie en tout cas de votre attention.
Oui, bonjour messieurs. Nous avions assisté en fin 2013 à une conférence débat de l'adjoint au maire de Mérignac chargé de l'urbanisme. Et j'avais été très surpris de l'entendre nous dire que malgré les bâtiments, les immeubles qui sortaient de terre à Mérignac un peu partout depuis 4 ou 5 ans, les écoles de Mérignac n'étaient pas effectifs complets. C'est-à-dire que le coût au mètre carré à Mérignac était tel qu'il y avait relativement peu de primo-accédants, et parce que les jeunes n'arrivaient pas à se loger sur Mérignac et préféraient aller se loger ailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à avoir des logements à moins de 3000 euros au mètre carré. Est-ce que vous allez, avec ce projet de 500 logements pour les accessions à la propriété privée, arriver à avoir du prix au mètre carré inférieur à 3000 euros?
Alors, si vous le permettez, je vais répondre en deux temps. D'abord, ce que vous évoquez a été bien entendu au niveau d'Ardios. C'est ce que nous a redit d'ailleurs la mairie de Mérignac, à dire aujourd'hui, on a une pénurie de logements pour les grandes familles. Et quand la famille s'agrandit, quand on a besoin de T4, T5, hop, ils quittent Mérignac, ils vont un peu plus loin sur la cube. Donc, c'est d'où la raison de 30% de T4, T5 dans chaque bâtiment. J'insiste bien là-dessus pour répondre à cette demande. Alors, par rapport à votre remarque et au coût de l'accession, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur trois profils, on va dire. Donc, il y a du locatif social, on reste sur du locatif. Il y a de l'accession à la propriété qui va sortir à des prix peut-être équivalents à ce que vous évoquez. Mais on a aussi de l'accession sociale à la propriété qui sera fait par Toit Girondin, qui est notre cousin, et qui sort aujourd'hui sur des prix en accession plutôt à 2300 euros le mètre carré. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, on devrait avoir une cible qui réponde à la fois sur du locatif social, à la fois sur, de la cible plus aisée en termes d'accession, mais aussi sur de la cible primo-accédant avec l'accession sociale à la propriété.
Oui, c'est la TVA qui fait la différence, je crois. Il y a une TVA plus basse sur l'accession sociale, en partie.
Je voulais juste quand même revenir sur cette image justement pour montrer que cette programmation, finalement, quand on regarde l'ensemble des bâtiments qui tous ont une écriture différente, on n'a plus la lecture de ce qu'est le logement social, de ce qu'est l'accession, de ce qu'est l'accession sociale. C'est-à-dire on voit bien que tout a été traité avec le même niveau de qualité et le même niveau d'exigence. Après, bon, ce sont des programmes différents, mais je veux dire, il n'y a pas une stigmatisation d'architecture les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi.
Une autre question? Parce que je pense que les gens qui interviennent après risquent de nous pousser un petit peu. Ah, pardon.
J'en aurai deux. Bonjour, messieurs. La première, c'est vos venelles qui contiennent des bassins de rétention. C'est très bien pensé, c'est joli, mais... Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Parce que je vois aux Ardios, je connais la population des Ardios par les écoles, et les enfants sont laissés à jouer dans les parcs de façon libre, tout seuls, sans grande surveillance. Bon, c'est pas méchant, c'est pas un quartier inquiétant. Et des enfants avec des bassins de rétention, moi, ça me fait un peu peur. Alors ça, c'est la première question. Puis la deuxième, je reviens, parce que j'ai déjà vu une conférence l'an dernier ici, et je vois que ces fichues cuisines sont toujours ouvertes. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on vive dans des odeurs de bouffe à longueur de temps. Et malgré les hautes aspirantes, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, si vous avez des livres dans des endroits pareils, ils sont gras, ils sont à jeter au bout de 2 ans. Malgré toutes les hautes aspirantes que vous voulez. Je ne saisis pas. Bon, j'ai l'impression que c'est une mode, mais franchement, je ne suis pas féministe. Mais là, vraiment, je vous vomis vos cuisines. Hein. Je ne peux plus les supporter, les voir en peinture. Ces cuisines ouvertes sur le séjour. Enfin, j'ai l'impression qu'on vit dans la cuisine. C'est une horreur pour moi. Et est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire des appartements où on ait des cuisines quand même de temps en temps séparées? Voilà.
Alors, en réponse à votre deuxième remarque sur les cuisines, sachez qu'on a 5 équipes d'architectes. Donc, le projet qui a été présenté fait des cuisines ouvertes, un esprit plutôt contemporain. Mais on a d'autres équipes qui ont fait des cuisines fermées. Bon, parce que, voilà, vous adorez les cuisines fermées. Moi, j'adore les cuisines ouvertes. Chez moi, j'ai une cuisine ouverte. Et du coup, l'idée, ça a été à un moment donné d'arriver à répondre à cette demande-là. Donc, vous inquiétez pas, il y a des logements qui sont prévus avec des cuisines fermées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est en bleu aujourd'hui, on a l'impression de voir des petits lacs. J'ai envie de dire, il y aura de l'eau lors des fortes pluies d'orage qui montera un petit peu. Donc en fait, tout le travail qui va être mené maintenant derrière, ça, par rapport au modelé de terrain, c'est justement qu'il y ait une pente très légère. Et pour justement éviter de se retrouver, j'ai essayé d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais peut-être pas suffisamment précise, sur le fait qu'on a l'habitude de voir des bassins de rétention où souvent on plonge avec une grande pente et on descend de 2,50 m, 3 m. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est véritablement... Alors, voilà, mon dessin est malheureusement pas très clair, mais on est sur un jeu de pente très douce et qui s'élargit pour justement faire du volume. Et j'ai envie de dire, dans ces endroits-là, vous n'y verrez de l'eau que les jours de fortes pluies d'orage, comme on peut voir des fois en été ou ce genre de choses, la plupart du temps, ça sera un espace vert classique. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec 50 cm d'eau pour répondre un petit peu à votre crainte. Quoi. Voilà. Oui. Alors après, il y a aussi des aménagements qui se font en parallèle de ça, avec justement les abords des zones qui servent de tampons, pour que justement le très peu d'eau qu'il y a soit encore plus limité. Donc tout ça, ça va faire l'objet d'une réflexion à ce niveau-là. Quoi. Voilà. Mais sachez que, bien évidemment, au moment des ateliers, on en a parlé entre nous-mêmes, d'ailleurs, à dire à un moment donné, attention, la démarche est intéressante, mais attention aussi au volet sécuritaire, bien évidemment. Une dernière question, ou sinon je pense qu'on va conclure, parce qu'on va nous pousser dehors. Allez.
Pour répondre sur les cuisines, ce ne sont pas des phobies d'architectes, c'est-à-dire, le logement social, c'est vraiment marcher sur un fil rouge partout, entre la fonction, le prix et l'usage. Et... c'est en fait l'accessibilité handicapée au logement qui dicte ce genre de réponse, dans la mesure où le prix de vente ou le prix de location est contraint, donc la surface du logement est fixée, et à l'intérieur de cette surface, respecter la norme d'accessibilité handicapée physique fait qu'on privilégie des espaces secondaires au détriment des espaces principaux. Et donc, devant chaque élément de cuisine, il faut un cercle de 1,50 m pour faire tourner un fauteuil. Donc, généralement, le choix se porte sur un jumelage de la cuisine et du séjour. Donc, c'est un peu une réponse par défaut pour répondre à une réglementation.
Et puis, c'est un choix aussi parce qu'on le voit, nous, quand on travaille avec nos services gestion locative, où c'est l'éternel débat de dire à un moment donné, on a des locataires qui adorent avoir le petit laboratoire fermé et on en a d'autres qui veulent tout ouvrir. Donc, voilà, c'est pour ça que sur ce projet-là, on a coupé un peu la part en deux. Là, il y en aura quelques-unes de fermées. Merci à tous, en tout cas, pour votre attention.
Merci. J'ai vu la lumière, je suis passé.
Mais si vous avez bien fait, ça va et vous ?
J'avais une question à vous poser. Dans la mise au point des plans...
Una ishti.
Păi de ce? Microfonul și între niște țuică ar fi trebuit, știi, așa, poate că...
Se bon?
Un, deux. Bonjour à tous et à toutes. On vous invite donc à l'espace conférence numéro 2 pour une